Si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous êtes passionné par le vin, par ceux qui le font et ceux qui le partagent. Un peu comme Ideal Wine finalement. Ideal Wine, notre PME française est devenue le site de référence des amateurs pour l'achat, la revente et la cotation de grands vins. Et nous en sommes très fiers. Car notre équipe de passionnés s'attache depuis 2000 à rendre accessible aux amateurs ce que le vignoble offre de meilleur. Deux types de ventes sont proposés sur notre site. Les enchères en ligne, pour lesquelles nous sommes aujourd'hui le premier acteur mondial, et une offre e-caviste qui s'appuie sur un réseau de 900 domaines partenaires, également animé par des rachats de caves particulières expertisées. Ideal Wine est le seul site capable d'aligner côte à côte de vieux flacons et les tout derniers millésimes d'un même domaine. Ideal Wine, c'est une équipe engagée pour vous guider et vous accompagner dans la constitution d'une cave qui vous ressemble. Au service du vin, de ceux qui le créent et de ceux qui le partagent depuis 2000.
Dans les grands crus, par exemple, il y a très peu de grandes parcelles disponibles. C'est beaucoup des petits morceaux ci et là. Donc c'est tout de même encore un milieu aussi très fermé dans ce qu'il se vend, etc.
Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain.
Je suis Florian.
Je suis Antoine.
Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le Bon Grain de l'Ivresse. Fin 2023, je suis pris d'une irrépressible envie de bulle. Ni une ni deux, je mets le cap sur Roger, fameux village de la Côte des Blancs, pour tendre mon micro à Marine Zabarino et Quentin Vincet. À la tête du domaine Vincet, ils font partie de cette jeune génération qui a digéré l'héritage champenois pour mieux le transcender. Résultat, des vins qui leur ressemblent et de l'émotion dans le verre. Tout ça au prix d'un travail minutieux et engagé qu'ils vous détaillent tout de suite. Bonjour Marine, bonjour Quentin.
Bonjour.
Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui à Auger, en Champagne. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît ?
Donc bonjour, je suis Marine Zabarino, j'ai 35 ans et je suis vigneronne à Auger.
Bonjour, donc moi je suis Quentin Vincet, j'ai également 35 ans et vigneron à Auger.
Alors on est au domaine qui porte votre nom, le domaine Vincet. Vous avez commencé votre premier millésime en 2014, donc c'est plutôt un jeune domaine et on va revenir sur tout ça pendant le podcast. Mais c'est pas votre première expérience en Champagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait avant de créer votre domaine, s'il vous plaît ?
Alors moi, avant de rejoindre Quentin et la Champagne en général, je suis issue de la communication, j'ai un master en communication et je vivais à Paris jusqu'en 2015. Je travaillais pour une grosse société, voilà, en communication.
Et après, tu as rejoint la Champagne avant le domaine Vincet et tu as eu quelques expériences dans divers domaines, il me semble.
Alors, surtout dans un, j'ai travaillé aux côtés de Charlotte Le Gallet, au Champagne Le Gallet, qui est situé dans le clos du château de Bourceau. Et je m'occupais surtout de l'onotourisme et puis aussi je l'épaulais dans ses différentes tâches parce que Charlotte est très très prise et beaucoup à Paris. Et voilà. Et ensuite, j'ai rencontré Quentin en fait au même moment.
Pour ceux qui ne connaissent pas, le château de Bourceau, c'est pas très loin d'Épernay.
Exactement.
Et c'est un très bel endroit qui a beaucoup misé sur le no-tourisme. Donc,
C'est un diamant brut en Champagne. Ouais. C'est l'un des plus beaux clos de Champagne et c'est sur le village de Bourceau dans la vallée de la Marne. Ouais. Je recommande.
Quentin, tu peux nous en dire un peu plus sur toi, s'il te plaît ?
Donc moi, je suis revenu sur le domaine en 2009, domaine familial. Et avant de revenir sur le domaine, j'ai fait mes études au lycée viticole d'Avize. J'ai fait un bac STAE et un BTS technico-commercial.
C'est un domaine qui est dans la famille depuis longtemps ?
Alors, je suis la huitième génération. Par contre, la première génération à vinifier, première vinification en 2014.
Avant, c'était simplement, entre guillemets, des apporteurs de raisins pour les grandes maisons, c'est
ça ? En fait, on était historiquement coopérateurs. La coopération dans notre domaine, dans notre famille, c'est quelque chose de très important. Mes grands-parents étaient fondateurs de la coopérative Les Grappes d'Or. Et donc moi, premier millésime en 2014.
C'est une coopérative qui vinifiait ou pas?
Alors, c'est une coopérative qui vinifiait un tout petit peu, mais l'essentiel des raisins était apporté à l'Union Champagne, qui est un regroupement de coopératives qui, eux, vinifient la marque de Saint-Gall, d'ailleurs.
Ok, donc parce qu'il y a un modèle un petit peu particulier en Champagne qui est que énormément de viticulteurs ne sont que, entre guillemets, des viticulteurs. Donc ils s'occupent de la vigne et après la vendange, le raisin est vendu, soit, enfin apporté soit à des coopératives, soit vendu à des grandes maisons telles Moët & Chandon, Veuve Clicquot et ainsi de suite, qui se fournissent en fait dans l'ensemble de la région pour pouvoir produire... massivement des bouteilles, des bouteilles de champagne, quoi.
Oui, bien sûr. Bah, le premier client de la coopérative de notre village, c'est d'ailleurs Moët & Chandon.
Je me permets de préciser, c'est lié à l'histoire de la Champagne. Si aujourd'hui, on est toujours à un équilibre de 90% du vignoble possédé par les familles, c'est aussi grâce à la coopération champenoise qui a à peu près une centaine d'années dans notre région. Et ça nous a permis de toujours avoir un poids assez important face au négoce, en fait. Donc l'interprofessionnalisation champenoise fonctionne en bonne intelligence entre tous ces acteurs.
Oui, parce que la Champagne, c'est un vignoble qui fait environ 34 000 hectares aujourd'hui. Il y a 16 000 familles, ou en tout cas 16 000 entreprises qui font pousser du raisin concrètement. Donc ça fait une taille moyenne de vignobles possédés qui est relativement faible. Il y a encore plein de familles qui ont des vignobles qui font 1 hectare, 2 hectares, voire moins parfois, et pour qui, en fait, la viticulture, c'est aussi une activité complémentaire.
C'est exactement. Ouais. Exactement. La moyenne de possession en Champagne, elle est à peu près de 2 hectares et demi, et il y a énormément de doubles actifs. Donc la coopération est encore très très forte dans notre région.
Quentin, est-ce que tu avais toi toujours imaginé revenir au domaine familial et travailler au domaine familial? Et si oui, est-ce que c'était évident que tu voulais changer le modèle économique pour devenir un domaine qui produit ses propres vins?
Alors non, pas du tout au début. Moi, quand je suis revenu pour accompagner mon papa au départ, donc je travaillais à mi-temps à la vigne et à mi-temps en maçonnerie avec lui, qui était vraiment la passion de mon papa de travailler la pierre. Et on va dire que ce mi-temps s'est transformé. Moi, ma passion, c'était plus la vigne. Et à force de travailler la vigne et de voir, on en reparlera peut-être après, mais de pouvoir faire des changements, on va dire, agronomiques et les changements de viticulture, un jour, je me suis dit qu'il faudrait que j'aille au bout de cette réflexion, au bout de ce travail de vigneron qui est de faire du vin.
Toi, quand tu es arrivé au domaine, tu nous as parlé de changements, là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ton père y travaillait avant que tu arrives?
Donc on était sur une viticulture conventionnelle, donc une viticulture où on désherbe, où on traite systématiquement sans réfléchir à la maladie, où on va récolter les raisins des fois un peu trop tôt. On avait une réflexion de viticulture conventionnelle.
Donc avec un plan de traitement, souvent voilà, plan de traitement qui est fourni par le fournisseur de produits, et exactement, on applique, et à la fin de l'année, on a des raisins, les rangs sont propres, les raisins sont vendus au kilo, et tout le monde est content.
Voilà, c'est exactement, ça. Et c'est un schéma qui fonctionne, hein, parce qu'il fonctionne encore comme ça en Champagne.
Il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui appliquent ce schéma-là en Champagne. Ouais.
Oui. Mais ce schéma-là, je pense, n'est pas possible pour faire un raisin qualitatif en termes aromatiques et pour faire du vin. C'est là où il y a eu cette transition, nous, qui s'est opérée quand je suis revenu sur le domaine. Au début, ça a été d'arrêter les désherbants. Ensuite, ça a été une réflexion des traitements très importante. Parce que les premiers impactés par les traitements, c'est les gens qui sont aux vignes. Donc en fait, c'est les vignerons, les salariés et tous les gens qui vivent dans nos villages, parce que les vignes sont très proches des villages.
C'était un gros changement pour ton père quand même. Ça voulait dire changer tout ce qu'il avait connu dans sa carrière. Ça voulait dire aussi beaucoup plus de travail. Est-ce qu'il a accueilli ça favorablement ?
Alors ça a mis quelques années la transition. Au début, on a redémarré par exemple le travail du sol sur une petite parcelle où lui, comme ça, il a pu m'apprendre aussi le métier, parce qu'en fait le travail du labour, ils appelaient ça le labour à l'époque, nous on appelle ça le travail du sol maintenant, mais le travail du labour, c'est quelque chose qu'il a connu quand lui, il a démarré dans les années 70, quand il a démarré sa carrière, qui ensuite il a perdu avec les désherbants, et donc il l'a redécouvert. Au début, on peut dire que ça l'a amusé, et quand il a vu que cette transition écologique, moi, me plaisait vraiment et qu'on allait étendre ça sur tout le domaine. Il y a eu une petite année de transition où ça lui a fait un peu peur, mais il m'a quand même laissé les clés et j'ai pu travailler la vigne comme je le souhaitais.
Est-ce que tu te souviens de la première fois, tu lui as dit « ce serait peut-être bien qu'on fasse du bio ». Comment est-ce qu'il a réagi ?
Alors en fait, je ne lui ai pas dit comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit « ce serait bien qu'on retravaille les sols, qu'on arrête de désherber ». Quand je suis revenu moi sur le domaine, c'est moi qui m'occupais des calendriers de traitement, donc comme on l'a dit tout à l'heure, tout au début avec les fournisseurs de produits. Et un jour, j'ai rencontré un vigneron, pour ne pas le citer, Laurent Vauversin, qui est vigneron à Auger, avec qui j'ai fait mes études, et qui m'a dit « mais tu sais qu'il existe une autre façon de faire, qui est la viticulture biologique ». La viticulture biologique, c'est ça, c'est déjà ne pas désherber, et c'est utiliser aucun produit chimique. En gros, on utilise du cuivre pour le mildiou et du soufre pour l'oïdium, qui sont vraiment les deux maladies qu'on retrouve au niveau de la vigne. Donc en fait, moi, mon papa, je lui ai dit on va retravailler les sols et sur une petite partie, je voudrais commencer à travailler la vigne de cette manière-là, sans utiliser le mot bio au départ. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est rendu compte que ça fonctionnait, qu'il y avait des moments difficiles, mais moi aussi, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir des moments difficiles et que pour faire une viticulture biologique en Champagne, il fallait être préparé, être prêt et être très bien outillé surtout.
Alors, c'est une double question. Un, comment ont réagi les autres coopérateurs avec lesquels vous travaillez ? Première question. Et deuxième question, est-ce que, économiquement, c'était intéressant de changer de modèle, dans le sens où est-ce que les raisins étaient mieux valorisés par la COP ?
Je vais répondre en premier à la question économique. Le passage à la bio n'a pas été motivé par l'argent. Ça a été vraiment motivé dans un contexte de santé et d'environnement. Pour être tout à fait franc, la certification bio, en fonction de quand tu t'inscris, bon, ça peut durer 4 ans. Et donc pendant ces 4 ans, le raisin n'est pas vraiment payé plus cher, alors qu'il y a énormément plus de travail. Donc l'aspect économique n'est pas un bon choix pour passer à la bio aujourd'hui. En revanche, une fois qu'on est certifié, oui, les raisins sont payés plus cher.
Donc c'est quand même une COP qui déjà... Sans parler de motivation, mais c'est une COP qui avait déjà une démarche de mieux valoriser les vins qui étaient les raisins qui étaient en bio.
En fait, ça dépend des coopératives ou du négoce à qui tu as affaire. Certains vont avoir un attrait pour le kilo bio s'ils proposent, par exemple, une gamme bio, etc. Ce n'était pas nécessairement le cas de la coopérative à laquelle la famille Vincé était attachée. De plus, tu as le temps de la certification. Donc, c'est-à-dire que ce temps-là long de la certification, qui va entre 3 à 4 ans selon le calendrier dans lequel tu t'inscris, n'est pas le même pour d'autres labels du genre HVO ou VDC.
Donc, VDC, tu peux nous
dire. C'est une particularité champenoise, ouais. C'est la viticulture durable en Champagne. C'est un cahier des charges qui est propre à la Champagne, qui n'est pas nécessairement reconnu au niveau national, mais bon, qui a été développé dans notre région.
Et qui est comment ?
Qui est à l'instar de l'HVE.
Ok.
Voilà. Il n'y a pas de temps de certification. Donc, effectivement, les raisins apportés en HVE ou en VDC sont valorisés dans l'année, ce que n'est pas la bio, par exemple. On a minimum 3 ans, donc pendant ce laps de temps-là, il n'y a pas de support économique dans l'achat du kilo de raisin.
Malgré le fait que quand tu commences à transitionner, tu as des baisses de rendement et tu fais le taf, donc tu as un coût de production qui augmente.
Bien sûr, voilà. Okay. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Donc si tu veux, ça n'est en rien une motivation première. Voilà. Dans tous les cas, si tu fais les choses pour l'argent, c'est en tout cas pour nous, ça porte pas ses fruits. Enfin, ça n'a pas de sens. Voilà. Le but premier, c'était vraiment la santé. En fait, Quentin s'est retrouvé face à des produits, à mettre le bras dans les cuves, à remuer, voilà, et il s'est dit, mais non, en fait. Moi, de mon côté, c'est pareil par rapport au palissage. Je me rappelle très bien où on sortait, l'époque où on sortait des vignes parce que les lico passaient, quoi. Tu rentres chez toi, tu as des plaques partout, ça gratte. Enfin, c'est pas possible de travailler comme ça. Voilà.
Oui, parce qu'en plus, alors c'est pas propre à la Champagne, mais il y a un, l'utilisation de produits phytosanitaires, mais deux, dans quand même beaucoup de vignobles, des règles de sécurité, de protection, d'utilisation de masques, de combinaisons et ainsi de suite, qui est pas extrêmement bien répandu pour utiliser un euphémisme. Donc ça augmente aussi le risque. La prévention, elle est pas très bonne dans la plupart des vignobles.
Bien sûr.
Et en ce qui concerne, comme tu disais, la protection individuelle, on appelle ça les EPI.
Équipement de protection individuelle.
Équipement de protection individuelle. Donc moi, quand je suis revenu sur le domaine il y a à peu près 10 ans, un peu plus de 10 ans, on n'en parlait pas du tout. Sorti de mes études, comme Marine le disait juste avant, on mettait le bras dans les cuves, on utilisait les produits sans masque, on respirait exactement ce qu'on était en train d'asperger. Et je parle de désherbants. On parle aussi bien de désherbants tel le glyphosate, mais aussi des désherbants de prélevés, où quand on va appliquer une prélevée sur le sol, on n'a rien qui pousse pendant plus d'un an. Et on allait mettre ça au printemps et on épandait ça en short sans problème. Il y a quand même une avancée, maintenant on ne le fait plus. Voilà, il y a quand même une amélioration, au moins en termes de protection humaine.
Quand tu dis on ne le fait plus, tu parles de vous ou tu parles de la situation générale en Champagne ?
Alors nous, on le fait plus du tout parce que ça fait des années qu'on le fait plus du tout parce qu'on est en bio maintenant. Mais en général, maintenant, les gens traitent protégés.
Ok, c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle.
Ok, donc vous passez au bio à partir de 2009. Enfin, la démarche est initiée.
La démarche est initiée en 2009. On passe au bio en 2014. Première réflexion sur le bio en 2013, mais on passe vraiment sur une partie du vignoble en 2014, en bio et en début de certification, qu'on arrête dans l'année, parce qu'en fait, à l'époque, le certificateur me disait que je pouvais pas juste avoir une partie de mon vignoble en bio. Donc, en fait, on a commencé une certification en 2014, qu'on a arrêté tout de suite, et on a redémarré la certification en 2019.
En 2014, vous décidez de faire le premier millésime.
Oui.
Tu étais encore avec ton père à ce moment-là ?
Oui, alors mon père j'ai eu la chance que mon papa me laisse des vignes. Donc en fait, j'avais une société viticole tout seul. Et mon papa avait une petite entreprise individuelle également tout seul. Donc c'est un contexte un peu particulier. J'étais mon propre chef. Sous le couvert de mon papa, bien sûr.
Et pour entrer concrètement dans le un peu la mécanique des choses, parce que je voudrais qu'on parle d'installation. C'est une des régions où c'est quand même le moins facile de s'installer en France, notamment à cause du prix des parcelles de vignes. Les maisons sont pas très chères, mais les vignes sont extrêmement chères dans le coin. Ces vignes-là, à ce moment-là, tu faisais comment ? Tu les louais à ton père ? Il te les avait vendues ? Comment ça marchait ?
C'est des vignes, en fait, qu'on a soit des fermages, soit des métayages, ou soit c'est des vignes qui appartiennent à des sociétés et on rachète des parts. Moi, pour mon cas, les vignes sur lesquelles on est propriétaire, il y en avait une partie, mon papa les exploitait, et une autre partie, c'est moi qui les exploitais. Moi, j'exploitais à l'époque des vignes de ma grand-mère. Et en termes d'installation en Champagne, c'est très lourd parce qu'on a un temps de vieillissement sur l'âtre qui est très important.
Ouais, donc ça veut dire que quand un domaine est lancé, vous avez commencé en 2014, ouais. En fonction du temps sur latte que vous voulez, enfin donc d'élevage en bouteille que vous voulez faire, ça veut dire que les premiers euros ils rentrent 2, 3, 4 ans,
voire
5 ans plus tard. Quoi. Voilà.
Donc là on est en 2023 aujourd'hui, mais donc premier millésime en 2014, première vente en 2020.
Ok. Aujourd'hui, vous avez combien d'hectares et est-ce que vous êtes propriétaire de tout ?
Donc, on est sur 7 hectares de vignes. Mon papa et moi, nous avons à peu près 5 hectares et on exploite 2 hectares à des cousins. Donc, c'est de la famille proche, c'est des cousins et c'est sous forme de métayage.
Et sur les 5 hectares que vous avez tous les deux, comment toi, tu es devenu propriétaire de ça ? C'est de la transmission ? Tu as racheté des parts ? Comment ça se passe ?
Alors, je ne le suis pas, en fait. Je suis propriétaire des vignes que moi, j'ai achetées. Mon papa est toujours propriétaire des vignes de nos aïeux et des vignes que lui a achetées. Par contre, il les met à disposition de ma société, c'est-à-dire que je les exploite et je lui reverse un fermage.
Ce que ton père, il possède toujours aujourd'hui, comment est-ce que... est-ce que vous avez prévu qu'il te ou vous le transmette? Et si oui, comment est-ce que ça se passe?
Alors, la transmission du vivant, c'est très onéreux. Donc, en fait, les transitions se font au décès. Enfin, généralement, la plupart des transitions se font au décès.
Alors, c'est important de préciser que Quentin est peut-être la 8e génération, mais que quand ses grands-parents ont eu le bâton, à l'époque, il y avait, si je ne me trompe pas, 1,70 hectare. Donc, c'est une famille qui a acheté en 3 générations la surface dont on parle. Et ça, c'est non négligeable quand même.
Ouais,
c'est-à-dire qu'il
n'y
a pas eu de reclassement. Voilà, il n'y a pas eu de reclassement de terre. C'est vraiment à leur initiative entrepreneuriale, quelque part, hein, d'acheter autant que faire se peut des vignes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même un outil de travail qui est très précieux.
Alors, tu soulèves un bon point. On l'a mentionné un peu avant, le prix de la terre est assez cher en Champagne. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais c'est en gros 1 million d'euros l'hectare planté. Grosso modo, en moyenne, c'est ça, quoi.
Oui.
En grand cru, c'est un peu plus cher.
Au plus bas.
Ouais. Voilà, là, on est en grand cru à Auger, donc c'est pas tout à fait pas exactement le même tarif. Dans la Côte des Blancs, une des parties les plus prestigieuses de la Champagne. Comment on fait pour acheter une parcelle aujourd'hui? Est-ce que la SAFER fait bien son travail? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Comment ça fonctionne?
Alors, la SAFER fait très bien son travail. Là, on est dans la Côte des Blancs. Un hectare de vigne vaut à peu près 2 millions d'euros à l'heure actuelle. Qu'on soit en haut de coteau, au milieu de coteau, bas de coteau, il n'y a pas de différence. C'est plus en termes de village. Pour acheter de la vigne à l'heure actuelle dans les terroirs de Grand Cru, c'est soit du bouche à oreille, soit faut être un petit vigneron. Et c'est là que je dis que la SAFER fait bien son travail, parce qu'elle peut bloquer des grosses transactions et qu'elle va redistribuer à des petits vignerons.
Ok, donc ça a l'air d'être une bonne chose déjà, parce que c'est pas ce qu'on entend dans toutes les régions de France sur la SAFER, quoi. Alors, on a beaucoup parlé de toi, là, Quentin, et du domaine. Donc toi, Marine, t'es pas issu de la famille, donc tu nous l'as dit.
Heureusement.
Oui, heureusement. <ouais. rire> Oui, parce que vous avez quand même une fille ensemble, donc heureusement que t'es pas issu de la famille. donc t'as travaillé à Bourseau.
Ouais.
Et ensuite, t'as décidé de revenir, de venir travailler ici avec Quentin.
Oui.
C'était à quel moment et qu'est-ce qui t'a attiré?
Alors, quand j'ai quitté Paris, c'est parce que voilà, j'avais un peu un ras-le-bol parisien. J'avais vraiment l'envie de revenir en terre natale. Et puis, moi, je suis une grande passionnée du champagne, surtout. Donc, l'idée, c'était de remettre un pied dans le monde champenois. Donc voilà, j'ai rencontré Charlotte. Et en fait, à la même période, j'ai rencontré Quentin. Et je trouvais que son projet était génial. Lui, il avait déjà vinifié 2 millésimes. Et il était un peu dans son coin. Enfin, moi, je sors de la communication. J'avais qu'une envie, c'était de raconter son histoire et là où il voulait aller, parce que je trouvais que des projets comme ça en Champagne, c'était rare, en fait. Et du coup, on a commencé à mettre de concert nos compétences. Donc, moi, j'ai ouvert un petit compte Instagram tout en travaillant à côté. Et puis, dès que je pouvais, je l'aidais. Ça m'a appris beaucoup de choses sur la vinification, déjà, que je connaissais pas du tout. On a rencontré la biodynamie ensemble, on a fait beaucoup de formations. Et puis, de fil en aiguille, on s'est retrouvés en 2019. Donc, un an plus ou moins de ce qu'on avait en tête de la première commercialisation.
Ah bon,
ouais. Première commercialisation des premiers millésimes de Quentin. Et en fait, on s'équilibre vraiment très, très bien sur les compétences. C'est-à-dire que moi, je gère plutôt la partie commerce, communication, je parle anglais, etc. Ça, c'est des sujets que Quentin aime pas trop. Et moi, à l'inverse, c'est pas sur moi qu'on compte forcément sur le manuel. Voilà, donc j'adore aller aux vignes pour m'aérer l'esprit, mais moi je perds du temps, tu vois, je suis là, je regarde les petites fleurs, je les analyse, enfin, je suis pas très productive, on va dire. Donc voilà, on s'équilibre bien là-dessus. Et après, est arrivé le Covid, Malheureusement, le papa de Quentin est tombé gravement malade, donc il s'est retrouvé vraiment tout seul. Et c'est dur, en fait, quand t'as un projet un peu pharaonique face à toi. C'est bien d'être épaulé et je pense que ça fonctionnait bien, le duo. Et c'était un peu une évidence. Je me suis dit en 2019, je le rejoins, quoi, tu vois. Voilà.
Et on a enchaîné sur 2020, la première commercialisation.
C'est ça.
Oui.
Ça vous a jamais fait peur de travailler en couple ?
Pas du tout. Au début, on nous l'a beaucoup déconseillé. Mais nous, ça nous faisait pas peur. Et en fin de compte, je voyais ça vraiment. Marine allait m'épauler. Et depuis qu'elle est arrivée, ben, ça s'est réalisé, en fait. C'est plus facile de pouvoir partager à deux les moments difficiles que même les moments de joie. Et donc, ça ne nous a pas fait peur et on en est content.
C'est même le sujet qui fonctionne le mieux, finalement.
Oh, le champagne est pas mal, quand même.
Oui, c'est trop.
Non, mais on se... Ouais, c'est vraiment quelque chose qui roule et c'est une force pour nous. Ouais.
Bah, tant mieux, pourvu que ça dure, alors. Vous l'avez dit, premier millésime 2014, première commercialisation 2020. Comment vous avez tenu financièrement entre les deux ? Parce qu'en gros, pour faire simple, tu fais ton vin clair, ensuite tu tires et la seconde fermentation en bouteille se fait, et ensuite c'est l'élevage sur latte. Et l'élevage sur latte, pour faire simple, on attend. Voilà, on attend autant qu'il faut. Ce qui peut déclencher une vente, c'est quand on a la chance de le faire, la qualité du vin, mais il y en a pour qui la contrainte économique est la plus importante, donc ils vendent plus rapidement. Comment est-ce que vous avez fait pour tenir aussi longtemps ?
Ben, clairement, en fait, c'est les banques qui suivent. Surtout sur, donc on l'a dit, entre 2014 et 2020, il se passe 6 ans. 6 ans où on ne vend pas une seule bouteille et tous les ans on a le souhait d'augmenter le volume commercialisable. On va voir les banques et on leur expose un projet et on voit jusqu'où ils peuvent nous suivre.
Dès le début, vous avez vinifié et tirer l'ensemble des raisins que vous produisez
sur le
domaine ?
Non, pas du tout. On a démarré avec 4000 bouteilles le premier millésime. Et ensuite, on est monté jusqu'en 2019 à 10 000 bouteilles. Donc voilà, on a augmenté petit à petit, vraiment pas beaucoup chaque année, parce qu'en fait, financièrement, on ne pouvait pas plus. On augmentait en fonction de ce que voulaient bien nous prêter les banques.
Ok, et le reste, vous continuiez à l'apporter à la COP tous les ans, quoi.
À livrer des kilos de raisins, donc soit à la coopérative encore à l'époque, ou soit ensuite chez des petits négoces qui recherchaient plus, on en parlait un peu tout à l'heure, des raisins en bio avec une viticulture différente.
Marine, tu voulais ajouter quelque chose ?
Pour remettre les choses dans leur contexte et parler un peu de chiffres, avec les 7 hectares qu'on cultive aujourd'hui, on pourrait produire jusque 60 000 bouteilles. Ça, c'est pour donner une idée, parce qu'il y a un petit peu de tiers, des cousins, etc. Et puis, il y a un vignoble qui est un petit peu ancien aussi. On a commencé à 4 000. Présentement, sur la vendange 2023, on est à 40 000. Donc voilà, on est 10 ans plus tard et on n'a pas encore atteint le plafond total de production. Donc c'est un temps qui est d'autant plus long parce que ce que l'on vend aujourd'hui représente du coup les millésimes, la production de 2019, et on est encore à 10 000. Donc il y a un gap, en fait, tous les ans qui est trop important pour qu'on puisse tout vinifier d'un coup. Même si, effectivement, les banques suivent, on est dans un contexte de champenois, de valorisation de bouteilles, etc. Il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est tout de même très, très long. Sans compter les investissements liés à la vinification, parce que Quentin a dû tout investir. Il n'y avait pas de pressoir dans la famille, il n'y avait pas de cave aussi importante que l'on a aujourd'hui, etc. Donc, c'est lourd, oui.
Oui, c'était bien déjà d'hériter de parcelles dans ce coin de la Champagne, mais ça fait pas tout. Et une installation de vinification et d'élevage, c'est également onéreux.
Et ça, ça n'est que la partie vinification, c'est sans parler de l'investissement au vignoble que requiert un changement de viticulture complet.
Est-ce que, d'après vous, c'est possible pour quelqu'un qui n'est pas issu du sérail de se lancer en Champagne aujourd'hui ? Quand je parle de sérail, ça veut dire qu'il n'y a pas hérité de vignes de la famille ou qu'il n'y a pas déjà des vignes dans la famille.
En fait, les gens qui souhaitent s'installer en Champagne, c'est très compliqué. Ça va plus passer par des apports de capitaux dans des sociétés véritablement pour des gens qui ont des projets en Champagne que de l'achat de terre, etc. etc. Surtout qu'on est dans un contexte de vignoble très morcelé, donc tu n'as pas la possibilité d'acheter une propriété avec tout sur place pour vinifier et les vignes autour, ce qui serait beaucoup plus facile en fait. Dans les grands crus, par exemple, il y a très peu de grandes parcelles disponibles. C'est beaucoup des petits morceaux ci et là. Donc, c'est tout de même encore un milieu aussi très fermé dans ce qu'il se vend, etc.
Je voudrais qu'on reparle un petit peu du bio, en dézoomant un peu, en regardant la situation générale en Champagne. Jusqu'à récemment, il y avait notamment une ambition affichée du comité Champagne d'arrêter le désherbage chimique. Enfin, avec des produits de synthèse, le glyphosate et autres, c'est pas le seul produit utilisé. Et cette ambition a disparu du discours officiel. J'ajoute à ça que le taux de vignes en bio en Champagne, il est inférieur à la moyenne nationale. Alors pourquoi on en est dans cette situation? Pourquoi c'est si dur de faire bouger les choses ici?
Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, elle est climatique, clairement. On est la région la plus septentrionale de France et de ce fait, on a des pressions en maladies qui sont importantes. La deuxième, elle est malheureusement économique. On est sur des prix du kilo de raisin haut, peu importe la viticulture.
Tu peux nous donner un ordre de grandeur, s'il te plaît ? En 2023, c'était combien un kilo de raisin pour acheter dans un village ni premier cher. Cru ni grand cru par Moët-et-Chandon, par exemple?
Au moins cher, donc sans classification, sans prime, parce qu'après il y a des primes qui s'ajoutent au prix du kilo par cru. Hein. En Champagne, on parle de kilo par cru, par village, donc on était à 6,50 €.
Ok, c'est
au moins cher.
C'est un des prix les plus élevés au monde. Pour un kilo de raisin, quoi. On n'en est pas très loin.
Et là, c'est le prix le plus bas de la Champagne.
Ouais.
Parce qu'ensuite, au plus cher, on peut être jusqu'à 13 €. Là, par contre, sur une viticulture, sur une certification et sur un terroir.
Donc souvent en premier cru ou même plutôt en grand cru, quoi.
Oui.
Okay. Ouais, vous l'avez mentionné, juste, je fais juste un petit rappel. Quand on parle de cru en Champagne, on parle de village, et c'est les villages qui sont classés premier cru ou grand cru. C'est pas les parcelles comme on peut connaître en Bourgogne. Donc il y a 17 villages qui sont classés grand cru, 43 qui sont classés premier cru, et un peu moins de 300 qui sont non classés, quoi.
C'est oui, ça bah en tout, ouais. On est 320 villages. Voilà. Et donc là, nous, dans la Côte des Blancs, on a 6 villages de grand cru.
Marine, tu as commencé à répondre à ma question en parlant des conditions climatiques. Il y a les conditions économiques aussi. Mais aujourd'hui, le climat, il change, ça beaucoup. La température moyenne, elle a augmenté en Champagne. Il y a un petit peu moins d'humidité et de pluviométrie qu'auparavant, ou pas?
Alors la pluviométrie, non, n'a pas été impactée encore. C'est-à-dire que la pluviométrie reste la même. Elle n'a pas vraiment bougé ces 30 dernières années. Je parle pour la Champagne, je ne sais pas au niveau national, mais... elle va être différente dans sa façon de tomber, entre guillemets. Voilà.
Dans sa répartition sur
exactement,
l'année.
Exactement, merci.
Et est-ce que le fait que la température moyenne ait augmenté, ça, et que l'humidité, enfin en tout cas que la pluviométrie soit toujours la même globalement, est-ce que ça fait augmenter la pression des maladies fongiques? Puisque la logique que j'ai en tête, c'est il fait humide et il fait un peu plus chaud. Et c'est dans ces conditions-là que le mildiou, l'oïdium se développe. Est-ce que ça a changé quelque chose de ce côté-là?
Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est tout à fait vrai, en fait. C'est l'humidité et la chaleur qui fait généralement bien sortir les champignons. Si ça a vraiment augmenté en 30 ans de temps, je ne sais pas. Je ne pourrais pas te répondre à cette question parce que, en fait, ce n'est pas moi qui m'occupais de la viticulture il y a 30 ans. Et les produits qui ont été utilisés à l'époque n'étaient pas du tout les mêmes. Ce que je sais, c'est qu'à l'époque, mon papa allait traiter à peu près 10 fois sur une campagne. Avec des produits chimiques. Nous, à l'heure actuelle, on traite le même nombre de fois avec des produits, donc avec du cuivre et du soufre.
Donc on peut penser que la pression des maladies, elle est quand même un peu moins importante. Parce
je pense ouais. Qu'en fait, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. C'est qu'on maîtrise peut-être mieux notre vignoble et on a certainement des outils bien plus efficaces qu'il y a 30 ans. Et en fait, la pression est certainement différente, mais on la gère mieux.
Si tant est qu'on s'en occupe. Il faut être quand même connecté à son vignoble pour bien comprendre ce qui s'y passe. Ça, c'est important dans la mise en place des traitements.
Il ouais, faut être un bon viticulteur ou une bonne viticultrice. Quoi.
Ben, je pense, oui. Ouais. Ça commence par là un peu. Ouais.
Je voudrais juste qu'on se reconcentre un tout petit peu sur le désherbage, si possible. Alors, désherber, c'est vrai que ça peut faire baisser un petit peu la pression des maladies, mais c'est quand même pas le but premier. Comme vous l'avez dit, il y a une pluviométrie certaine en Champagne, qui est plutôt adéquate pour la viticulture. On ne manque pas d'eau ou seulement à certaines périodes en Champagne. Donc ça veut dire que la concurrence entre l'herbe et la vigne, elle est peut-être moins importante puisqu'il y a assez d'eau pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on désherbe autant en Champagne alors ?
C'est vraiment une histoire de temps de travail. Les anciens, à l'époque, travaillaient les sols au cheval. Ensuite, on a eu la chance d'avoir des tracteurs. On a réduit le temps de travail avec les tracteurs. Et ben ensuite, on a réduit le temps de travail avec les désherbants. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'on faisait du mal. La balance bénéfice-risque, voilà, au bout d'un moment, on s'est dit, on pollue nos sols, on pollue nos eaux, ensuite on boit nos eaux. Peut-être qu'il faudrait peut-être travailler un petit peu plus et arrêter de désherber.
C'est aussi dans une démarche de production. On a tout de même des appellations assez hautes en Champagne. On a un certain nombre de pieds plantés à l'hectare. On a des terroirs, effectivement, qui sont majoritairement productivistes. Et donc, le désherbage va en ce sens. Il suffisait de venir, il y a 2 ans, en Champagne, quand on a eu des appellations un peu au-dessus de 12 000... Bon, ben voilà, les coteaux n'étaient pas jolis à voir au printemps, c'était en prévision d'une appellation assez haute.
Alors que 2 ans auparavant, on a eu le Covid avec des appellations très basses, et ben les coteaux étaient étaient verts.
Quand vous dites haute ou basse, alors, vous pouvez expliquer ce que ça veut dire, alors, s'il vous plaît.
En Champagne, on parle d'un kilo hectare. C'est-à-dire qu'en moyenne, depuis quelques années, on est aux alentours de 10 000 kilo-hectares. Bon, un peu plus ces dernières années, on est monté à 12 000 suite Covid. Alors, pour donner une idée en hecto, on parle à 12 000 kilo-hectares, qui est la plus haute appellation qu'on ait connue là, ces derniers temps. On parle de 75 hectolitres hectares.
Parce qu'en fait, il y a un système un peu particulier en Champagne qu'on ne retrouve pas dans les autres régions. C'est que dans les autres régions, le rendement maximum, il est fixé dans l'appellation. C'est 45 ou 40, il me semble, à Saint-Joseph, par exemple, et X hectolitres par hectare à Châteauneuf. Ici, c'est le comité Champagne, tous les ans, qui fixe le rendement maximum autorisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il le fixe ? Quels sont les critères qui permettent de fixer ce rendement maximum ?
Alors, concrètement, le critère, c'est les ventes de bouteilles de champagne. Ensuite, on va prendre en compte aussi la vendange à venir, c'est-à-dire un peu l'aspect millésime. S'il y a une belle récolte, on va être tenté d'augmenter un petit peu ce rendement. Et si la récolte est... Si, par exemple, il y a une année avec des gelées, parce qu'on a une grosse problématique de gelée, nous, en Champagne, de gelée de printemps, je précise, on peut baisser un petit peu ce rendement. Mais clairement, on va se caler sur le nombre de bouteilles vendues.
Je rejoins Quentin, effectivement c'est une question de nombre de bouteilles vendues, donc à nouveau économique, on comprend bien le fond du propos hein, depuis le début, et aussi de stock en Champagne. Voilà, on a quand même des stocks qui sont assez lourds et effectivement on est entre 3 à 5 années de stock. Quand on arrive à 5 années de stock, ça commence un petit peu à saturer aussi les marchés, donc on se dirige vers des appellations un petit peu moins hautes. Mais oui, le nerf de la guerre est ce qui fait que l'on décide des appellations. Alors c'est le CIVC, c'est vrai, mais en discussion avec les 2 autres grosses instances de la Champagne que sont le Syndicat Général des Vignerons, qui représente les vignerons indépendants et les coopérateurs, et l'Union Champagne, qui représente le négoce.
Quand tu parles de stock, il y a les bouteilles stockées,
oui.
Mais il y a aussi le système des vins de réserve.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert, les vins de réserve ? C'est quoi l'idée générale ?
Alors, les vins de réserve, donc il faut à nouveau remettre les choses dans son contexte. La Champagne est tout de même une région historiquement compliquée pour le travail de la vigne. Donc là, on est dans un contexte où économiquement, ça va bien, mais ça, c'est loin d'avoir été le cas dans l'histoire. Même du temps de nos grands-parents, c'était pas du tout le cas. Et donc, pour enrayer les pertes très importantes des années, la réserve individuelle a été mise en place dans le cahier des charges champenoise. Voilà.
Si je peux me permettre, vous me dites si je me trompe ou pas, mais la réserve, l'idée, c'est de pouvoir maintenir le niveau de production les mauvaises années aussi. C'est une sorte d'assurance contre les mauvaises années. Et par exemple, ça a très bien marché en 2021. Heureusement que c'était là. Il y a eu une année catastrophique en termes de rendement. Et alors, pas forcément de qualité, ça dépend un peu des endroits, mais en tout cas, en termes de quantité de raisins, c'était faible. Si la Champagne veut continuer à vendre toujours le même nombre de bouteilles par an, et on parle d'environ 300 millions de bouteilles à l'année, la réserve, ça permet de maintenir ce niveau de production, même quand le rendement a été faible.
Voilà, c'est ça. Les années où, pour X raisons, que ce soit météorologique, de la gelée ou de la grêle, ou tout simplement du mildiou, ce qui arrive, eh ben on va combler cette appellation avec nos vins de réserve. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons si dans nos vignes, on fait l'équivalent de 8000 kilo-hectares et que l'appellation est à 10000 kilo-hectares, on va avoir le droit de débloquer dans l'année 2000 kilo-hectares.
Alors, on discute des rendements, là. Vous l'avez dit, 12 000 kilos à l'hectare, ça fait environ 75 hectos, ce qui est un rendement très généreux quand on compare à d'autres régions. Est-ce que les vins de Champagne, ils seraient meilleurs avec des rendements un peu plus maîtrisés ?
Alors, ce qu'on se rend compte depuis quelques années, donc nous, ça fait 10 ans qu'on vinifie. Donc, on a eu des années à fort rendement comme l'année 2023 et des années aussi à faible rendement comme par exemple 2017 ou 2019. Et en fait, ce qu'il faut, c'est un juste équilibre. C'est vrai qu'à 75 hecto-hectares, il y a certaines vignes qui vont peut-être apporter un peu moins de rondeur où on pourra perdre un petit peu le fruit. Mais à contrario, on se rend compte sur des années de gelée où quand on n'a plus du tout de rendement, donc descendre à 20-25 hecto-hectares, on va perdre aussi cette effinesse et cette ossature et cet équilibre. Donc le juste milieu, pour moi, il se situerait plus entre à 8-10 000 kilo-hectares, donc ce qui ferait à peu près un rendement de 50 hecto-hectares.
Vous avez beaucoup de vieilles vignes au domaine ?
Oui, majoritairement, oui. Sur la plus grosse partie. Alors, on parlait de 7 hectares. Sur ces 7 hectares-là, en fait, il y en a 5,5 plantés sur la côte des Blancs. Et sur ces 5,5-là, à 80%, on est sur de la vieille vigne qui date d'avant les années 70, en sélection massale, donc. Et aujourd'hui, on a vraiment à cœur de se diriger vers les sélections massales et vers un choix précautionneux du matériel végétal parce qu'on pense que c'est vraiment l'avenir du vignoble.
Alors, vous avez mis en place le bio au domaine. Vous avez parlé brièvement aussi un peu de biodynamie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans les vignes, dans les années à venir, qui va améliorer encore la qualité de vos vins ?
L'avenir du vigneron, aujourd'hui, c'est s'adapter au réchauffement climatique. On le voit depuis quelques années. On a des années de plus en plus chaudes. Moi, à l'époque de mes grands-parents, les vendanges en Champagne étaient début octobre, on va dire entre le 1er et le 15 octobre. Du temps de mon papa, les vendanges étaient entre mi-septembre à fin octobre. Et aujourd'hui, on est en début septembre à mi-septembre. Et c'est vraiment ça le nerf de la guerre aujourd'hui. C'est comment s'adapter à ça, parce qu'on a des raisins. Nous, on fait du champagne. Et pour faire du champagne, en fait, on a une prise de mousse qui se fait en bouteille. Et pour faire une fermentation en bouteille, il ne faut pas des taux d'alcool trop élevés. Historiquement, la Champagne va faire une prise de mousse avec des taux d'alcool à 11 degrés d'alcool. C'est pour ça qu'on voit la prise de mousse fait gagner 1,5 degré. Donc c'est pour ça qu'on a des champagnes en moyenne à 12 12,5. Sauf que là, depuis quelques années, depuis 2015 et là depuis 2018, on a eu 18, 19, 20, je parle de millésimes, où on peut facilement récolter à 12, 12,5 naturel en vin de base. Ce qui nous fait des champagnes derrière à 13,5, 14. Donc là, on peut avoir des problèmes de fermentation ou tout simplement des problèmes de... Ça rend le vin un peu plus alcooleux et ouais, des problèmes de buvabilité.
Ça change complètement le profil du vin et on ne sait pas si les consommateurs vont être au rendez-vous avec des vins comme ça. Quoi.
Voilà. Donc les améliorations, ça passe par des systèmes de palissage haut. Il y a beaucoup de recherches qui se font en ce moment sur du tressage haut pour venir apporter de l'ombre.
Et donc ralentir le processus de maturation des raisins.
Exactement. Ou alors, en vinification, des prises de mousse au moût de raisin.
On en parlera en cave tout à l'heure, ça nous expliquera exactement ce que vous faites sur ce sujet-là. Je crois que tu voulais nous parler un peu de matériel végétal également. Tu peux nous dire un mot là-dessus, s'il te plaît ?
En fait, lors de notre changement de viticulture, on s'est rendu compte que les vignes qui réagissaient le mieux à ce changement et qui réagissent le mieux au changement climatique, c'est les vieilles vignes. Donc les vieilles vignes, en fait, c'est des vignes où on a fait des sélections massales. Les sélections massales, c'est quoi ? On faisait des sélections directement à la vigne et des sélections de différents pieds de vigne. Et non, ce qui est la différence avec la sélection clonale, c'est qu'on prend un individu qui répond à une problématique et on va le cloner.
Nous, pour notre viticulture, au bout d'un moment, il y a trop de lissage du génome sur une seule et même parcelle pour pouvoir enrayer les problématiques auxquelles on fait face en bio. Je m'explique, on est dans une pièce, on est 10, il y en a un qui est porteur d'une maladie. Si tu as une immunité qui est assez forte pour la combattre, tu ne vas pas forcément attraper cette maladie. Alors que si tu es 10 à avoir le même génome, il y en a un qui est porteur d'une maladie, les 10 autres l'ont. Donc ça, c'est une première problématique. On va faire attention aussi au type de greffe des pieds que l'on achète pour replanter ou entreplanter. Ça, c'est très important. Je pense qu'il y a un grand dépérissement aujourd'hui qui est notable dans le vignoble mondial et donc français, qui est aussi lié aux greffes. Donc la greffe en fente, à l'anglaise, à la main, est pour moi bien plus qualitative que la greffe oméga. Et ça, c'est des problématiques que l'on va peut-être voir arriver de dépérissement dans 20 ans. Et nous, on n'a pas ce temps-là. C'est-à-dire que les vignes que l'on plante aujourd'hui sont là pour nous dépasser, comme celles que l'on cultive à l'heure actuelle. Quand on parle de vieilles vignes sur le domaine, en tout cas ce qui est notre cas, ce sont des vignes qui vont être plantées, qui ont été plantées entre 1937 et 1972 pour la plus jeune d'entre elles. Voilà. Donc ça, c'est de la sélection massale.
Et au-delà de la viticulture, on s'en rend compte aussi en vinification, c'est que des raisins produits dans une sélection massale auront un panel aromatique bien plus large que des raisins produits dans une sélection clonale. Marine l'a bien expliqué pourquoi. C'est la même problématique que la maladie, c'est que tous les raisins vont donner. J'extrapole un peu, mais vont donner le même goût, alors que dans une sélection massale, chaque individu est son propre être et va donner un arôme différent et va rendre les vins plus complexes à la fin.
Surtout quand tu fais des fermentations à base de levure indigène, en fait. Si derrière tu sélectionnes, bon, peut-être que dans tous les cas, ce serait lissé par une levure principale, mais en tout cas, quand nous, on vinifie naturellement en levure indigène, et c'est important aussi d'avoir une grande diversité pour avoir un panel exactement aromatique le plus divers possible. Ouais.
Puisque vous lancez sur la vinification, je vous propose qu'on aille en cave pour en discuter, ça vous va ?
Allez !
Allez, en route ! Alors, on est dans la cave de Vinif, on est même plus exactement à côté du pressoir. Et c'est quand même étonnant parce que c'est un domaine récent, mais vous avez un vieux pressoir en bois. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix du pressoir en bois et pas du pressoir pneumatique ?
Alors là, on est devant un pressoir traditionnel champenois. Donc, c'est un 4000 kilos coquard. Alors, encore une fois, on parle en kilos. Donc, 4000 kilos, c'est 25 hectos 50. Donc 2550 litres. Alors on a choisi ce pressoir tout simplement parce que c'est ce qui se fait le mieux en termes de pressurage. En fait, on a une très grande surface de pressurage et donc une force de pressurage très basse. En fait, on va travailler à une pression minimum pour pouvoir extraire le jus de raisin. Donc, vu qu'on a une pression très faible, on va mettre entre 4 et 5 heures au domaine pour faire un pressoir. Quand avec un pressoir pneumatique, on peut faire un marc en 3 heures.
Je me permets de préciser, quand tu parles de 25 hectos 50, ce n'est pas un chiffre qui sort de nulle part. Il me semble que c'est dans le décret d'appellation. En Champagne, on presse au moins deux fois les raisins. Il y a la première presse qu'on appelle la cuvée, c'est 20 hectos 50. Et la deuxième presse, donc qui sert à faire le vin de base. Et ensuite, il y a les 500 litres suivants qui servent à faire les vins de réserve qu'on appelle les tailles. C'est bien ça ?
Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, donc oui, par contre, c'est décidé, c'est légiféré. C'est-à-dire qu'on a 20 hectos 50 de taille et 5 de cuvée, pardon, et 5 hectos de taille. Par contre, c'est destiné, les deux sont destinés à faire le vin de base. Par contre, c'est vrai qu'il va y avoir une qualité dans ces 25 hectos 50. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir les premiers jus qui vont s'écouler, qui vont être les moins avec le moins d'arômes d'extrait, on va dire, végétal, parce que à la fin, on va dire, les tailles, c'est là où on va pressurer le plus fort possible pour les avoir, et donc c'est un petit peu moins qualitatif. Mais on se sert de l'ensemble du volume pour faire du champagne. Enfin, ça, après, c'est le vinificateur qui le décide.
Et donc, ça, le terme de qualité là que tu mentionnes, c'est une vision très champenoise, parce que ce que tu expliques en fait, c'est que en fin de deuxième presse, on a besoin d'un peu plus de pression pour extraire du jus et donc on extrait davantage de choses de la peau. Et c'est cette partie un peu phénolique et couleur de la peau qui vous intéresse un petit peu moins en Champagne.
Alors ça dépend ce qu'on veut faire. Si c'est pour faire du vin blanc, comme tu l'as dit, donc du coteau champenois, tout va nous intéresser. Si c'est pour faire du champagne qui va être, ça c'est ce qui se fait traditionnellement, mais par exemple pour un champagne millésimé, champagne qui va vieillir longtemps en cave, on va choisir plus la cuvée. Ensuite, par contre, si c'est pour faire un brut de 100 années, un champagne qui va sortir, qui va faire 3 ans de cave et qui va sortir assez rapidement sur le marché, on va utiliser les tailles sans problème. C'est pas vraiment deux presses, on parle en retrousse. C'est-à-dire que nous, sur le pressoir 4000 kg, pour avoir nos 25 hectos 50, on va faire 4 trousses. C'est-à-dire qu'à l'aide de fourches, on va mettre le raisin de l'extérieur vers l'intérieur manuellement. Que dans un pressoir pneumatique, ça se fait mécaniquement, ça se fait directement dans le pressoir. Et en fait, cette retrousse, bah, faut imaginer que ça va un petit peu triturer le raisin et on essaie d'en faire le... Enfin, plus on va en faire et plus on va avoir ces arômes un petit peu phénoliques, cette amertume qui peut apparaître.
On va en cave, on va voir le travail que vous faites là-bas qui est aussi assez original. Allez, en route. On se trouve maintenant dans la cave. C'est une cave qui ressemble pas tout à fait à toutes les caves de Champagne puisqu'on est uniquement entouré de barriques et de demi-muits, je pense, avoir la taille. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le chemin du raisin jusqu'à arriver dans les barriques ici, s'il te plaît ?
Donc là, on se trouve au moins deux. Le pressoir est au rez-de-chaussée. C'est important de le souligner parce qu'en fait, on travaille tout en gravité. On a le pressurage qui se fait, qui dure à peu près 4 à 5 heures. Ensuite, le jus va descendre par gravité au moins un dans des cuves, ce qu'on appelle des cuves de débourbage. Là, il va y rester entre 12 et 24 heures, où toutes les choses, tout va se faire naturellement. On n'utilise pas d'enzymes ou pas de soufre. D'ailleurs, on protège lors du pressurage le jus qui s'écoule avec de la glace carbonique. Donc le débourbage de 12 à 24 heures va se faire dans des cuves en inox pour en fait faire sédimenter la matière la plus grosse, c'est-à-dire des quelques pépins de raisin qu'on pue ou des morceaux de terre, enfin voilà des poussières, des choses comme ça vont sédimenter. Et ensuite le moût de raisin on va l'écouler dans des fûts, donc on va du 228 litres aux 820 litres. Où là va se passer la fermentation alcoolique, et encore une fois, elle va se passer naturellement avec des levures indigènes. Et vu qu'on est dans une cave où il fait à peu près 12 degrés, cette fermentation va durer entre 1 et 2 mois.
Marine, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix du bois comme ça, qui n'est pas commun en Champagne ?
Alors le bois, on le travaille depuis le début. Simplement, les deux premières années, on a fait un test. On avait deux cuvées, notre lieu dit, qui était vinifié dans l'esprit que l'on a aujourd'hui, donc tout sous bois-liège. L'idée, c'était en fait de travailler une matière vivante qui respirait. Donc nous, on a vraiment à cœur de travailler la micro-oxygénation, ce que n'offre pas la cuve. Mais pour ne pas partir bille en tête sans avoir fait d'essai au préalable, les deux premières années, on avait une cuvée qui s'appelait La Première, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était vinifiée 50% cuve, 50% barrique et vieillie sous capsule. Voilà.
Vous élevez les vins combien de temps ensuite ?
On élève les vins minimum 12 mois. Ensuite, sur certaines cuvées, on peut monter à 24 mois, voire encore plus. On est sur de nouveaux essais. Et c'est aussi pour ça, la cuve, on trouvait que ça fermait un petit peu trop les vins, qu'on allait trop sur le côté réducteur. Nous, il faut savoir que le vin reste sur lit toute l'année, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas les lits de fermentation. Et donc, en fait, on travaille grâce au bois cette oxydoréduction. On a la réduction apportée par la lie et on a la micro-oxygénation apportée par le bois et ensuite par les différentes tailles de barriques.
Est-ce que vous bâtonnez un peu ?
Ça dépend des années. On bâtonne toujours au minimum une à deux fois. Des fois, ça peut être juste pour terminer les fermentations et ensuite, après la fermentation malolactique, pour remettre en fait vraiment les lies en suspension et pas que le vin soit en contact pendant 6 à 8 mois avec des lies de fermentation malolactique qui vont plus apporter des arômes de beurre, on va dire. Donc, c'est deux fois minimum et en fonction des millésimes, ça peut monter à 4 fois.
Et vous faites toujours la fermentation malolactique aussi ?
Alors, elle se fait naturellement. Nos premières années, on la recherchait pas vraiment. Donc au début, les deux premières années, elle ne s'est pas faite. Ensuite, elle s'est faite à moitié. Et maintenant, plus on vinifie naturellement, parce qu'en fait, les premières années, on n'était pas en sans soufre. Et le soufre peut être un bloquant léger pour la fermentation malolactique. Et maintenant, voilà, elle se fait naturellement. Et ensuite, en fonction des années, elle se fait soit à la suite de la fermentation alcoolique, c'est-à-dire avant l'hiver, comme par exemple cette année 2023, où là, on avait de l'azote dans les moûts. Et donc, en fait, la fermentation alcoolique et la fermentation malolactique se sont fait assez rapidement. Ou soit les années un peu plus compliquées, donc qui sont généralement des années, je parle compliquées en vinification, c'est souvent des années très chaudes, où on va récolter des taux d'alcool élevés et du coup des azotes bas. Et là, elles vont se faire plus au printemps.
Je suis obligé de parler du sans-soufre, tu l'as mentionné, et c'est quand même quelque chose d'important chez vous. Et encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas si commun que ça en Champagne. On va commencer par parler de vous et après on parlera de la Champagne de manière générale. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ?
C'est un choix qui est venu petit à petit. Comme je l'ai dit, on a démarré avec des doses de soufre assez classiques. Ensuite, on a baissé ces doses de soufre.
Tu peux nous donner un ordre de grandeur ? C'est quoi des doses de soufre un peu classiques dans la région ?
Alors, ça va être entre 50 et 70 de total. On parle très peu de libre en Champagne, on parle surtout de total. Donc voilà, entre 50 et 70 de SO2 total. Ensuite, on a une transition. Donc ça, on a fait ça pendant 2-3 ans. Ensuite, pendant 2-3 ans, on est descendu à des doses bien plus basses, c'est-à-dire aux alentours de 30 mg de SO2 total. Là, en fait, c'est-à-dire qu'on mettait juste une petite dose de soufre au pressurage et ensuite plus rien pendant l'élevage et non plus au dégorgement, parce que c'est vrai qu'après on parlera peut-être du dégorgement. Et maintenant, ça fait 3 ans qu'on est total sans soufre. En fait, notre réflexion, c'est la même qu'à la vigne. C'est de faire les choses le plus naturellement possible, tout en gardant cette qualité. C'est-à-dire qu'à la vigne, on essaie de faire les plus beaux raisins possibles, le plus naturellement possible, mais de sortir de jolis raisins. Et ben, à la cave, on essaie de sortir la meilleure des qualités le plus naturellement possible. Et pour l'instant, notre qualité gustative n'a fait qu'accroître, à mon sens. La qualité de nos vins n'a fait qu'augmenter avec la baisse de dose de soufre.
Est-ce que c'est le fait d'avoir goûté d'autres champagnes ou d'autres vins sans soufre qui vous a mis sur cette voie-là ?
Oui, alors c'est à l'instar de la viticulture en fait. Hein. Pourquoi aussi la biodynamie ? Parce que les plus grandes émotions qu'on prenait en dégustation, et c'était souvent à l'aveugle, provenaient de ce type de vin, qui souvent utilisent des doses très très faibles de soufre, voire pas du tout. Donc en fait, l'idée c'était de se dire, on va tout faire pour pouvoir s'en passer. Donc déjà, on a la chance d'être installé sous plusieurs niveaux, ce qui nous permet de travailler par gravité. Et puis quand on n'en a pas besoin, on n'en met pas. Après, c'est pas dogmatique. Pour le moment, on est sur 3 années où effectivement, il n'y en a pas besoin. On n'a jamais été confronté à des années plus difficiles où en fermentation, ça se passe mal ou autre. Pour le moment, on n'a pas besoin de s'en servir et donc on ne voit pas pourquoi on s'en servirait en fait. Voilà.
Alors, je voudrais ajouter que pour 90 ou 95% de ce qu'on vinifie est sans soufre, mais voilà, ce n'est pas dogmatique, on en utilise quand même. Par exemple, jusqu'à maintenant, sur nos coteaux, donc les vins tranquilles, on met 1 gramme, donc c'est vinifié sans soufre, mais on met 1 gramme de soufre à la mise en bouteille. Et ensuite, par exemple, cette année 2023, on a fait des essais de soufre. C'est-à-dire que ça fait 3 ans qu'on faisait total sans soufre. Et là, on s'est dit, refaisons quand même des essais. C'est-à-dire que sur 3 mares, en fait, j'ai remis une petite dose de soufre pour voir quand même, pour continuer à me convaincre que c'est quand même meilleur. Il ne faut pas oublier que le but final, c'est de faire de bons vins, nature certes, mais sans défaut.
Alors, si on parle maintenant de la champagne en général, moi, j'avais compris quand même que le soufre, c'était un antioxydant et un antibactérien. La possibilité de vivre des bactéries dans un milieu, elle est quand même vachement liée au pH. Voilà. Et en champagne, le pH, il est très bas. Donc, normalement, la stabilité microbienne des vins de champagne, elle est quand même facilitée par ce pH qui est très bas. Comment ça se fait que la champagne a quand même globalement, je vais utiliser des mots un peu forts volontairement, mais une certaine passion pour le soufre ?
Une certaine passion comparée à d'autres régions, je ne suis pas tout à fait certaine parce que déjà sur nos vins de base, on n'a pas de résiduel en fait. Hein, et même sur le champagne fini qui contient également du gaz. Donc tout ça fait que ce sont des façons de conserver plus faciles. Deuxièmement, ensuite en bouteille, les doses donc de dosage, hein, de liqueur de tirage étaient quand même relativement importantes en champagne jusqu'à aujourd'hui. Et donc le sucre est aussi un conservatif. On en utilise de façon assez certaine aussi parce qu'on a beaucoup de vins de réserve en champagne et donc ce sont des stocks qu'il faut conserver. Voilà, et je pense que les plus grosses doses de soufre, si je parle de façon précise, c'est surtout sur les vins de réserve. Mais après, tu vois, comparé à d'autres régions, comme je pense à l'Alsace, parce qu'il y a beaucoup de résiduels, les vins sont peut-être un peu plus touchy à travailler dans le temps et plus protégés de ce fait.
Non, je pense vraiment que la champagne n'a pas la main lourde sur le soufre. Elle en met un minimum parce que voilà, il faut une certaine sécurité pour les vins de base. Mais ensuite, vu qu'on a la prise de mousse en bouteille, on peut pas avoir des libres trop importants. Donc le consommateur, ça c'est quand même un avantage. Le consommateur à la fin, quand il boit une bouteille de champagne, il a très très peu de SO2 libre et des doses de soufre assez correctes. Mais on peut faire mieux. C'est pour ça que on peut aller plus loin. On peut en mettre moins, voire pas du tout, par contre.
Marine, il y a quelques minutes, tu as mentionné le tirage, et tu as parlé du tirage liège et du tirage capsule. Donc en champagne, il y a plusieurs manières de faire la prise de mousse. Donc on prend le vin de base, on le met en bouteille, on ajoute la liqueur de tirage, et ensuite on ferme la bouteille pour que la seconde fermentation se fasse et qu'on fasse l'élevage sur latte. Ça a longtemps été fait avec des bouchons en liège, puis ça a un peu disparu, ou en tout cas ça s'est beaucoup beaucoup réduit. Aujourd'hui, l'immense majorité des maisons et des domaines font des tirages avec une capsule, donc une capsule couronne comme sur les bouteilles de bière, avec un petit bidule en plastique à l'intérieur. Mais en ce moment, moi j'ai l'impression que le sujet du tirage liège, il revient dans plein d'endroits, y compris dans des grandes maisons qui font des essais. C'est quoi les avantages du tirage liège et pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là ?
Alors l'idée première, encore une fois, elle était un peu bête et méchante, c'était de garder les vins au contact de matières vivantes. Ensuite, on continue le travail du bois, de la micro-oxygénation tout au long de l'élevage sur latte par l'utilisation du liège, qu'on trouve assez intéressante. Quand on fait des élevages longs, le liège est vraiment intéressant parce qu'en fait, la première année, il va avoir une respirabilité qui va être assez importante. Et avec le temps, le liège se rétracte, ce qui fait que son imperméabilité, merci, est beaucoup plus importante en fait. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Ensuite, c'est pareil, c'est à nouveau pas figé chez nous. Pour le moment, effectivement, depuis le millésime 2016, l'entièreté des vins sont vieillis sous liège. Maintenant, comme tout choix, il y a un revers de la médaille. On fait face à des années de plus en plus sèches, donc quid de l'utilisation du liège dans le temps et sa question écologique également. Pour le moment, c'est recyclé, etc. Mais bon, voilà, on peut se poser ces questions-là. Et puis aussi, il faut bien avoir en tête qu'on a tout de même une hétérogénéité de nos vins de ce fait. Donc, c'est une question chez nous qui reste en suspens. Pour le moment, on est convaincus, mais ce n'est pas dit que dans l'avenir, ça évolue.
Alors, par hétérogénéité, Marine entend qu'en fait, dans un liège, la concentration en oxygène, en micro-oxygène, ne va pas être la même. Et en fait, c'est ça la seule petite différence, c'est qu'au bout de 10 ans, deux bouteilles tirées liège auront des petites différences. Et c'est ça qui peut faire peur, des fois, à certains grandes maisons. Parce que on n'aime pas, et le but en champagne, c'est de faire, enfin pour les grandes maisons, c'est de faire le même vin chaque année et de gommer tout ce qui peut être variabilité en fait. Mais ce qui peut être pour le vigneron, par contre, est tout à fait recherché.
Vous avez aussi pris certaines libertés sur la manière de tirer les vins et sur la liqueur de tirage que vous utilisez. Tu peux nous expliquer ce que vous faites, s'il te plaît, Marine ?
Alors, ça concerne une cuvée qui n'est pas encore commercialisée, qui est toujours en cours d'élevage. Et donc, en fait, on fait face de plus en plus à des vendanges chaudes, comme tu l'as mentionné, avec des degrés sur vin de base qui peuvent être autour des 12, des fois un petit peu plus. Donc, la question se pose de la prise de mousse derrière, en augmentant encore plus ces degrés-là, en arrivant à des champagnes à 13,5, 14, des problématiques peut-être liées à des goûts auxquels on n'a pas l'habitude, ou même de travail des levures tout simplement pour la prise de mousse. Donc l'idée c'était de tirer au moût de raisin. Alors on est loin d'être les premiers à faire ça, on s'est librement inspiré d'autres vignerons qui le font pour faire d'abord des essais, et puis ensuite on a vu que ça fonctionnait bien et c'est une cuvée qu'on fait de façon récurrente depuis 2018 qui va être commercialisée potentiellement l'an prochain, voire l'année suivante selon comment ça goûte en cave.
Quentin, est-ce que tu peux nous expliquer grosso modo qu'est-ce que c'est une liqueur de tirage un peu traditionnelle aujourd'hui en Champagne ? Et vous, qu'est-ce que vous faites avec le moût ?
Un tirage classique, c'est donc on va avoir un vin de base dans lequel on va rajouter des levures et du sucre pour recréer une fermentation en bouteille. C'est tout simplement comme ça qu'on fait du champagne, enfin du vin effervescent. Et donc pour remplacer ce phénomène, on peut utiliser du moût de raisin en cours de fermentation. Donc comme ça, le moût de raisin, dans ce moût de raisin, il y a naturellement le sucre qui est présent et les levures, et on va mélanger le vin de base avec le moût de raisin et on aura une fermentation naturelle et du coup à la fin un champagne 100% jus de raisin et 100% naturel. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de vin nature, mais en Champagne, c'est très compliqué à faire des 100% vin nature ou 100% jus de raisin, parce qu'on a cette prise de mousse où il faut qu'on rajoute du sucre, donc du sucre de betterave ou du sucre de canne, donc qui est un intrant dans tous les cas.
Oui, donc pour vous, ce tirage au mousse a deux avantages. C'est un, vous n'ajoutez pas de levure au moment du tirage, donc ça veut dire que c'est levure indigène du début à la fin, ce que les autres ne peuvent pas faire, parce que quand on ajoute du vin, il n'est plus en fermentation, et donc il faut aussi ajouter des levures pour que la seconde fermentation se fasse. Et le deuxième avantage aussi, c'est que ça n'augmente pas le degré alcoolique de vos vins, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt. Habituellement on a des vins qui sont autour de 11 degrés, on rajoute 24 grammes de sucre, ça fait 1,5 degrés en plus, et on finit avec des champagnes à 12,5. Vous avez des vins qui sont déjà à 12,5, et en ajoutant le mou, ça ne va pas augmenter le degré final. Est-ce que ça vous permet, ça aussi, d'aller chercher des raisins avec un degré de maturité un peu plus important, et donc avec... comment dire, une palette aromatique ou une expression différente et plus ouverte, plus riche. Enfin, comment ça change le style de vos vins ?
Allez. Voilà, t'as fait la transition, mais j'allais te le dire. Le travail de vigneron, tout vigneron se reconnaîtra là-dedans. La complexité à l'heure actuelle sur les années chaudes, c'est d'aller récolter des vins mûrs, mais pas trop en alcool. Donc nous, si on veut continuer à avoir, si on veut aller chercher cette complexité aromatique, parce qu'on la recherche pour faire nos champagnes, eh ben, on a cette technique qui fait que, en utilisant du moût de raisin, on ne va pas augmenter notre degré d'alcool, parce qu'en fait, le volume qu'on va rajouter à notre vin de base, c'est ce volume-là qui va se transformer en alcool, et c'est pas un sucre qui va augmenter l'alcool du vin de base. Et on peut même, à l'inverse, parfois, donc on va prendre le cas de cette année, donc nous, on a le millésime 2022 était un millésime très chaud, et on a fait cette technique de tirage au mou sur une grosse partie de notre production du millésime 2022, donc dans lequel on a incorporé du mou de raisin de 2023. Et vu que 2023 est un millésime froid, on peut même baisser notre degré final qu'on avait sur le vin de base de 2022. Donc là, c'est vraiment tout bénef. On peut aller chercher des hautes maturités, donc avoir une complexité aromatique, et on n'augmente pas notre degré alcoolique, et donc on n'accentue pas cet effet alcooleux. On garde une certaine finesse, donc c'est vraiment tout bénef.
Qu'est-ce que vous essayez de transmettre avec vos vins ?
Mode de l'émotion. Si on peut, ce serait... Si un jour, quelqu'un me disait « J'ai pris une grande émotion avec vos vins », je crois que ce serait ce serait merveilleux, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Après, le vin, c'est très subjectif. Comme on le sait, voilà, c'est pas fait pour plaire à tout le monde. Surtout quand on est dans des choix très clivants, dans ce type de vinification, par exemple, qui peuvent l'être. Donc ouais, je dirais l'émotion, ouais.
Peut-être qu'on essaie de se faire plaisir à nous-mêmes, déjà, aussi. Faut savoir que voilà, le vin, on le fait pour nous, on le fait pour notre famille. On les boit généralement 30-40 ans plus tard en repas de famille si nos aïeux ont pu faire du vin. Et voilà, de partager une émotion, oui, et de se faire plaisir.
Et quand tes parents ils boivent vos vins, qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui ?
Alors, ils adorent, mais je ne sais pas si c'est eux qui sont les mieux placés pour juger nos vins, dans le sens où c'est leurs enfants qui les font. Donc, ils sont très fiers. Non, ils adorent. Ils sont très fiers de nous. Et j'espère que notre fille sera fière de nous quand elle les goûtera dans 30 ans.
Et ton père, ça ne lui a pas donné envie de faire aussi ses propres vins quand il voit le résultat ?
Alors, mon papa maintenant est à la retraite, mais lui, dans tous les cas, ça n'a jamais été un grand amateur de vin. C'est aussi pour ça que j'ai eu les mains libres quand j'ai démarré la vinification. C'est que j'ai pu faire ce que je voulais parce que, entre guillemets, ça ne l'intéressait pas du tout. Il avait peur juste parce qu'il voyait que je faisais des choix différents des voisins. Je prenais des risques et il avait peur qu'on ait des défauts. C'est vraiment ça qui lui faisait peur. Et maintenant qu'on commence à avoir un petit peu de recul, il est juste fier et il trouve qu'on a pris les bonnes décisions.
Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez de l'émotion avec vos vins? Parce que tu dis que tu veux transmettre aux autres, mais est-ce que tes vins, ils te donnent de l'émotion?
Alors, c'est très difficile à répondre à cette question. Pour les tout jeunes millésimes, oui, j'ai en revanche du mal à boire les premières années parce que c'est moins en accord avec là où on veut aller. Et puis bon, on est toujours très 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 critique sur ce que l'on fait. Donc, je te dirais que les sorties là qu'on vient de mettre sur le marché, qui sont les 2019, c'est mes gros coups de cœur pour nous de comparer à tout ce qu'on a déjà proposé. Et les vins qui me donnent le plus d'émotion chez nous, je dirais que c'est quand même les coteaux.
Les vins qu'on sort à l'heure actuelle, c'est les vins qui nous ressemblent le plus maintenant. Comme on a dit, en Champagne, on a mis énormément de temps. Le vieillissement en cave est très long. Et donc, en 2014, ma vinification en 2014 et au moment où on les a sortis en 2020, mon palais, il y avait eu des changements qui s'étaient un petit peu opérés. Là, on a trouvé notre style de vinification. Et maintenant, c'est vrai qu'ils nous transmettent peut-être plus d'émotions que nos premières années.
Marine, tu mentionnes les coteaux, là. Je ne peux pas saisir la balle au bon. Avec le changement climatique, est-ce que les coteaux champenois, c'est l'avenir de la Champagne?
Ça en fera partie, c'est sûr. Ce sont des vins historiques à la Champagne. Il faut rappeler que historiquement, on faisait d'abord des vins tranquilles avant d'avoir une bulle sur nos vins. Oui, c'est plus facile aujourd'hui de proposer des vins vraiment assis, des vins tranquilles assis au regard des vendanges vers lesquelles on se dirige de plus en plus. Oui. Oui.
Tu as bien dit assis et pas acide, hein, on est d'accord?
Assis, tout à fait. C'est-à-dire riche, en place, etc. Faut plus croire qu'un coteau champenois, c'est du vin clair mis en bouteille. Voilà.
dans la cave où on se trouve, là, sur les barriques, il y a des petites ardoises avec marqué beaucoup OG Grand Cru et puis des noms de parcelles. C'est un choix fort aussi que vous avez fait de vinifier par parcelle et de produire des vins par parcelle. C'est quand même une manière de faire du vin qui est un petit peu à la mode chez beaucoup de vignerons indépendants aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'héritage de la Champagne. La Champagne, c'est quand même une région d'assemblage, beaucoup de vins non millésimés, ce qu'on appelle les bruts sans année, parce que c'est des assemblages de plusieurs millésimes, avec une certaine constance dans le style et le niveau de qualité de la production. Vous, ce n'est pas du tout le choix que vous avez fait. Pourquoi ?
En fait, en tant que première génération de vinificateurs, l'idée, c'était d'appréhender le goût des différents lieux qu'on avait. Et donc, on a été assez inspiré par le modèle bourguignon qui voulait séparer les lieux. Donc, autant que faire se peut, parce qu'on continue aussi dans notre production, on sépare effectivement les pressoirs selon les lieux. Et comme tu l'as cité, il y a beaucoup d'OG là, qui nous entourent en termes de barriques. C'est parce que c'est notre terrain de jeu principal. Sur donc, les 7 hectares de vignes au total, il y en a quand même 3,5 sur le cru d'Auger. Et l'idée, c'était vraiment d'aller explorer en profondeur les différentes expositions et sols qu'offrait Auger. Voilà, c'est un grand cru qui est très peu connu parce que soit très coopérateur, soit aux grandes maisons. Et donc, nous, on avait à cœur de se jouer ambassadeur de notre joli village.
Est-ce que vous avez malgré tout, une fois que vous aviez vinifié parcelle par parcelle, fait des essais d'assemblage?
Oui, oui, tout à fait. Alors, surtout sur Auger, parce qu'on a quand même pléthore de parcelles. Mais on va venir, pour composer la cuvée Auger, oui, on va venir rassembler les différents pressoirs d'Auger. Donc, en fait, on sépare à la vendange, parce que aussi les dates de récolte ne sont pas les mêmes. Hein. Les parcelles qui viennent des coteaux, celles qui viennent du plein terroir et celles qui viennent des fonds de terroir sur des terres plus planes. Et ensuite, oui, on va venir faire une sélection de barriques pour constituer la cuvée du village.
Dernière question, traditionnelle. Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites aujourd'hui?
Bah oui, complètement. Ouais, ouais. On a la chance de travailler par passion, ce qui fait qu'on travaille jamais. Non, mais voilà, c'est pas un... Alors, c'est un métier qui est dur, attention, mais moi, je me lève tous les jours avec l'envie d'aller faire ce que je fais. Et ça, c'est très précieux dans une vie.
Alors oui, complètement. C'est vrai que c'est un métier qui est très dur. Parfois, on s'interroge, mais dans la globalité, on est bien récompensé et on est heureux.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à toi.
Eh bien, ça m'a donné soif tout ça. Un épisode en profondeur, rendu possible par la générosité de Marine et Quentin. Merci à tous les deux pour votre accueil formidable. Chers auditeurs, chères auditrices, suivez bien ces deux-là, ils ne sont pas là pour buller. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappet pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon !